Je m'appelle Noémie. Alors, moi, j'ai grandi dans une petite ville de bord de mer. Mes parents y tenaient un petit hôtel. Donc, j'avais toujours vécu dans une maison. Après le bac, je suis partie faire mes études dans une grande ville. Et je crois que j'attendais que ça. Très peu de temps après mon arrivée, je crois un an après, j'ai eu l'occasion d'emménager dans une tour. J'habite toujours, d'ailleurs, au 33e étage, donc presque tout en haut. J'ai tout de suite adoré ça. C'était une évidence. Quand ma famille me rendait visite, ça les étonnait toujours. Quand on n'est pas habitué, c'est un peu extraordinaire cette vue. On peut sentir loin du monde, de la vie. Mais moi, ça m'a tout de suite plu. Et du coup, quand la construction de l'Exoforme a démarré, j'étais aux premières loges. J'ai vu les grues s'installer partout dans la ville. Très vite, ça s'est mis à monter et c'était incroyable à regarder. On parlait que de ça entre nous, dans les journaux, à la télé. On voyait progresser la structure presque à vue d'œil. Ça a commencé par les pylônes. Ils poussaient un peu partout dans la ville et puis ils ont posé les arêtes qui dessinaient peu à peu les contours des futures facettes. Autour des chantiers, il y avait une énergie hyper communicative. Je sais pas comment vous dire, j'avais l'impression d'assister à la transformation du monde en direct. Et puis on a commencé à voir les premières facettes. J'ai la chance d'habiter juste sous l'une d'elles. Une facette basse qui se trouve à quelques mètres de la fenêtre de mon salon. Je l'ai vu être assemblé. Ça a duré quelques jours, une grosse semaine, et puis elle était là. Et à travers elle, c'était tout rose. La ville, le ciel, la lumière dans ma maison. Et ça a continué à grandir. Ils ont installé les facettes voisines, on avait l'impression d'un puzzle qui s'assemble, mais en volume. À certains endroits, on voit à travers plusieurs couches de rose. Du coup, c'est pas exactement la même couleur qu'ailleurs. Et puis aussi, ça varie dans la journée avec le soleil, le temps qu'il fait. Des fois, la surface réfléchit la ville. On est toujours étonnés. Quand la ville a été entièrement recouverte, il y a eu une inauguration, des événements un peu partout, des fêtes. Tout le monde était dehors. Et ce soir-là, pour la première fois, ils ont allumé l'exoforme. Et c'était waouh. La lumière s'est mise à pulser doucement le long des arêtes, c'était magique. Cette pulsation, elle remplit ma maison toutes les nuits depuis. Et je continue à trouver ça magique. Et en plus, ça fait un petit bruit. Attendez, je vais vous faire écouter. Vous entendez? Moi, j'adore, ça me berce. Cette facette, je pourrais presque la toucher. Elle me protège, elle m'accompagne. C'est la mienne. Et je pourrais plus vivre ailleurs. Je vis enveloppée par une œuvre d'art.
Je m'appelle Assia, je suis biologiste au sein d'un organisme indépendant et aujourd'hui, nous disposons d'assez de recul pour aborder les répercussions écologiques de l'exoforme sur la faune et la flore. Je vous avoue que je suis inquiète et je vais vous dire pourquoi. Lors de la genèse du projet, le Néoconsortium a réalisé plusieurs études sur lesquelles les gouvernements se sont appuyés pour donner leur feu vert à la construction de l'exoforme. Toutes ces études concluaient à une légère augmentation de la production agricole sans effet néfaste sur l'habitabilité de la planète. Toutefois, quand il est devenu évident que l'exoforme allait bel et bien être construit, j'ai été l'une des signataires du manifeste Earthwise. Avec d'autres scientifiques, nous y dénoncions le manque d'impartialité de ces travaux et la potentielle dangerosité de l'exoforme pour les écosystèmes vivants. Il était quand même question d'un bouleversement à l'échelle de la planète et nous trouvions inacceptable que des intérêts privés puissent faire courir un tel risque à tout l'écosystème. Heureusement, nous avons reçu le soutien de nombreuses ONG et nous avons su convaincre des institutions internationales. Grâce à elles, nous avons pu mettre en place un groupement de recherche afin de construire des modèles et simuler les effets de l'exoforme sur notre environnement. Une expérience menée en Arizona dans les années 80, Biosphère 2, tentait de recréer un écosystème viable à l'intérieur d'un immense dôme scellé. À l'époque, cette expérience avait entre autres objectif d'évaluer la faisabilité de biosphères identiques lors d'une colonisation spatiale. Le dôme contenait plusieurs biotopes, sur le modèle de la Terre, une faune et une flore de 3800 espèces, arbres, mousses, bactéries, petits mammifères, insectes. Pour mener l'étude, une équipe d'expérimentateurs s'est enfermée dans la structure, mais rapidement, le niveau d'oxygène a commencé à diminuer et au bout de 13 mois, l'expérience a dû être interrompue. L'air vicié avait entraîné la mort de la plupart des animaux vertébrés et des insectes pollinisateurs. Seuls les plantes grimpantes avaient proliféré, ainsi que les cafards et les fourmis. Alors personnellement, c'est un monde qui ne me fait pas rêver. Donc cette expérience dont les résultats ont été désastreux, ce qui, au passage, met à mal la probabilité de produire un espace viable sur une autre planète, n'est pas sans rappeler certains aspects de l'exoforme. Et elle a montré combien il était difficile de maîtriser un écosystème avec des technologies. Nous n'allons pas reproduire une expérience à taille réelle comme celle de Biosphère 2. Nous avons simulé l'évolution des principaux paramètres du vivant et dans tous les scénarios, les courbes divergent. Le taux d'oxygène diminue, les températures augmentent, la biodiversité s'effondre, le cycle de l'eau est complètement perturbé. Les conditions de la vie sur Terre telles que nous la connaissons sont radicalement modifiées. Dès que nous avons été sûrs de nos résultats, nous les avons publiés et nous avons tenté d'alerter les politiques et l'opinion publique. Mais dans le même temps, le néoconsortium a créé un groupement d'études qui s'est mis à inonder les journaux de contenus polémiques. Ce sont les mêmes techniques que celles qu'avaient utilisées les industries du tabac ou celles du pétrole. Ils ont tenté de minimiser nos résultats en produisant des controverses pour discréditer nos conclusions, fabriquer de la confusion et retarder les prises de conscience. Ce qui leur a donné du temps pour continuer à s'étendre et rendre tout démantèlement de plus en plus difficile. Je ne serais pas surprise que, comme dans le cas des industries du tabac ou des énergies fossiles, on découvre qu'ils en connaissaient les conséquences délétères depuis bien longtemps. Si l'exoforme continue à s'étendre, l'avenir de l'humanité est très compromis. Des choix politiques sont nécessaires car il y a un risque non nul d'effondrement humain et non humain à court terme. Il faut se décider vite car nous manquons de temps.
Alors moi c'est Alain, je suis agent de maintenance grade 2 sur l'exoforme, c'est-à-dire que je m'occupe de surveiller l'état des deux facettes et de leurs arêtes. Alors actuellement, nous nous trouvons sur la base de vie. Vous voyez, alors c'est assez rudimentaire, mais c'est chauffé. En général, on est 5 ou 6. Quand il y a les grosses interventions, on peut monter jusqu'à 18. Donc, on est environ à 5000 mètres d'altitude. C'est là que je stationne entre les deux missions de maintenance sur les facettes. On fait des rotations de 3 semaines parce qu'il faut du temps pour s'adapter. Alors, on s'amuse pas à redescendre tout en bas tous les jours. D'ailleurs, on prend tous des médocs pour supporter l'altitude. Là, on va s'équiper. On a une tenue chauffante, des bouteilles d'oxygène, donc un casque, un peu comme un scaphandre. Et il y en a pour 40 kg d'équipement. Il y a eu beaucoup de progrès sur les attaches. Avant, on mettait des heures à tout enfiler et fermer la tenue.
Une fois qu'on est équipé, on se log et la mission commence. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est Olga, l'IA de maintenance, qui me pilote. Elle monitore mes signaux vitaux, elle voit à travers la caméra de mon casque et il y a des capteurs sensoriels sur mes gants. Maintenant, c'est plus le moment de traîner, parce que Olga, elle rigole pas. Donc on va embarquer dans l'ascenseur qui monte au palier 60.
Porte ouverte. Porte fermée, altitude 5004 mètres, en ascension.
Alors, le pilier fait 12 000 mètres de haut. Donc, vous allez voir, la montée est assez longue. Et comme on est dans le pilier, il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà. En tout, il y a 7 ascenseurs à prendre. Sur d'autres piliers, j'ai des collègues, ils ont des fois 15 ascenseurs différents. Alors, des fois, il y a des pannes. Alors, on n'a pas envie de rester bloqué plusieurs jours en haut. C'est pour ça, regardez, il y a une petite trappe, là, au sol. Hein, et on peut descendre en rappel. Voilà. Ça m'est arrivé une fois, je m'en souviens. C'est...
Porte fermée, altitude 5900 mètres, en ascension.
Alors, au fur et à mesure qu'on monte, la température va descendre, donc il y aura de moins en moins d'oxygène. À chaque palier, il faut changer les réglages de la tenue pour pouvoir supporter. Alors, les conditions de travail sur la facette et sous la facette, ça n'a strictement rien à voir. Dans tous les cas, c'est des gestes très techniques, mais il y a des procédures à suivre, longues comme mon bras, ok? Et de toute façon, je risque pas d'oublier quoi que ce soit, hein, parce que j'ai la voix d'Olga dans le casque, qui me dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Aujourd'hui, on monte parce qu'une des arêtes s'est éteinte, et au central, ils n'arrivent pas à l'avancer. Alors, souvent, c'est pas grand-chose, mais on y va.
Altitude 12 423 mètres.
On y est.
Terminus, accès sur E2 facettes, porte ouverte. Le Néo Consortium vous souhaite une bonne journée.
Aujourd'hui, l'intervention passe par l'extérieur de Xopharm. Attention, ça va vous changer. Alors, aujourd'hui, ça souffle vraiment. Heureusement, on est bien équipé. Et puis, il y a le ciel bleu. Hein, c'est pas toujours qu'on voit ça. Bon, là, il y a Olga qui me dit qu'il faut que j'y aille. Voilà, j'ai plus beaucoup de temps pour diagnostiquer la panne et réparer. Vous pouvez rester un peu et profiter de la vue. C'est vraiment sublime la Terre, à travers les facettes roses et le ciel bleu, c'est pas mal aussi, hein. Et on se retrouve en bas. Allez.
Je m'appelle Adèle Mésange, je suis adjointe au directeur général du SIE, le service d'implantation de l'Exoform. Il s'agit d'un service de l'État placé sous la haute autorité du ministre de l'Harmonie des Territoires. Ce service a été créé dès que l'Exoform a été dupe, c'est-à-dire déclaré d'utilité publique, et inscrit parmi les OIN, opérations d'intérêt national. Notre objectif est d'accompagner l'installation de l'Exoform sur l'ensemble du territoire. Nous servons d'interface entre les intervenants privés et les collectivités publiques. Nous sommes donc au cœur de ce programme ambitieux qui ouvre de nouvelles perspectives, et notre action s'inscrit dans la poursuite d'une politique volontariste de modernisation du paysage régional à l'échelon national. Notre périmètre d'intervention s'étend en même temps que le déploiement de l'Exoform et se conforme au plan en trois phases défini initialement par le Néo-Consortium. D'abord urbain, puis périurbain dans le cadre de l'Exoform 1.0. En parallèle, pour préparer à l'Exoform 2.0, nous travaillons aux liaisons de ces agglomérations à travers les territoires ruraux avec des communes peu denses ou très peu denses en concertation avec les élus. Bien sûr, la mise en œuvre du projet dans les zones urbaines denses telles que Paris ou les grandes métropoles régionales n'est pas aisé du fait du déficit de réserves foncières et le parti a été pris de limiter l'emprise au sol en utilisant notamment les parcelles occupées par des lieux culturels ou artistiques que le projet rend évidemment obsolète. Dans les zones rurales, nous ne nous attendons pas à des difficultés particulières pour l'implantation de l'Exoform. Ce ne devrait pas être plus compliqué que de développer le réseau autoroutier ou d'installer des centrales nucléaires. Notre cap est de pousser les territoires à prendre le virage de la modernité. Cette ambition exigeante, nous la portons avec pragmatisme dans une logique d'ouverture. Aussi, nous nous autorisons à procéder à des ajustements de manière à minimiser les répercussions qui pourraient impacter les activités agricoles ou économiques en liaison avec les équipes du Néo-Consortium. Au-delà de ces avancées prometteuses, il demeure des problématiques complexes qui restent à traiter, notamment l'incidence sur le schéma de circulation aérienne. Nous devons aussi prendre en compte les contraintes liées à l'environnement et aux zones labellisées. Il y a aussi des difficultés spécifiques à résoudre au niveau des zones frontalières, notamment avec nos amis britanniques, liées aux différences dans les normes et les systèmes de mesure. Toutefois, ces différentes questions sortent du champ des compétences du service d'implantation de l'Exoform et seront directement traitées au niveau européen. Pour finir, nous pouvons nous réjouir de voir le projet se développer selon son calendrier initial. Et ce, grâce aux efforts de nos collaborateurs et avec l'aide des équipes du Néo-Consortium. L'échelle exceptionnelle de ce projet offre de nombreuses opportunités de mettre en œuvre des solutions innovantes et souvent inédites pour construire le monde de demain.
Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4.
Je m'appelle Anthony, je suis steward de l'espace. C'est-à-dire que j'accueille et j'accompagne des voyageurs lors des vols de transfert vers leur hôtel qui orbite à 500 km d'altitude. Nous les déposons et nous prenons en charge les visiteurs qui retournent sur Terre. Ça fait 2 ans que je travaille pour G-Space, dont 1 année en tant que chef de cabine. Avant, je travaillais dans l'aviation civile et j'étais pas souvent chez moi. À présent, chaque vol dure 16 heures aller-retour, mais on revient toujours là d'où on est parti, donc c'est beaucoup plus confortable. Ici, nous sommes devant le vaisseau. Vous voyez, il ressemble à une petite fusée. On peut quand même accueillir 10 passagers et 6 membres d'équipage. Nous allons monter visiter l'intérieur. Là, il s'agit du salon de vol. C'est ici que se tiennent les voyageurs. Comme vous pouvez le constater, il y a des hublots partout, même au sol. En même temps, une fois en apesanteur, le sol, le plafond, vous imaginez bien que ça ne veut plus rien dire. D'ailleurs, vous voyez, tout est arrimé. Tout l'espace est désigné pour assurer le voyage le plus confortable possible. Nous travaillons avec une clientèle très exclusive. Et selon les options, le prix d'un séjour peut atteindre plusieurs dizaines de millions. Ma mission lors d'un vol, c'est principalement la sécurité des passagers. Il faut s'assurer qu'ils sont bien attachés lors des phases délicates comme le décollage ou au retour quand la gravité revient. Il faut parfois les retourner pour les mettre dans le bon sens et aussi lors de l'atterrissage. Et puis il y a le passage en apesanteur. Parfois certains passagers ne le supportent pas bien et je dois veiller à ce que ça ne vienne pas gâcher le plaisir des autres. Mais c'est quand même mon moment préféré. C'est toujours étonnant, même encore pour moi d'ailleurs. C'est une expérience très euphorisante. D'abord, le passage en apesanteur surprend parce qu'il se fait tout doucement, progressivement, comme si le poids s'évaporait. Et puis après, il y a la vue, la Terre. On voit sa courbure, les océans, parfois des continents de nuages, des aurores polaires, et maintenant le rose et sa pulsation lumineuse. En effet, la Terre, les océans, tout ça, d'une fois à l'autre, ça ne change pas beaucoup. Ce qui commence à être vraiment intéressant, c'est de voir l'évolution de l'exoforme. Au début, il n'y avait que quelques taches de rose. C'était au-dessus de grandes villes comme Shanghai, Singapour, New York, Paris, Dubaï. Et en 2 ans, ça s'est bien étendu. L'ouest de la Chine, les côtes américaines, toute l'Europe, le nord de l'Inde. On voit qu'il y a énormément de moyens investis. Et il y a déjà des passagers qui ne viennent que pour voir cette œuvre d'art d'en haut. Et d'autres qui sont revenus pour voir son évolution. Pour ma compagnie, c'est évidemment très positif. Ça invite les clients à revenir et la liste d'attente ne diminue pas. Il y a même une influenceuse qui a fait le voyage tous les 2 mois pour nourrir son compte Instagram avec des selfies devant l'exoforme. Pour finir la visite, je vais vous offrir un verre de champagne. C'est le moment convivial du voyage. Quand nos voyageurs sont un peu à l'aise avec l'apesanteur, on leur offre un verre de champagne. Nous avons des coupes qui sont spécialement étudiées pour être bues en apesanteur et bien sûr, elles sont durables et réutilisables.
Je suis professeure des écoles, je m'appelle Carole. J'ai une classe de CM1, c'est-à-dire que mes élèves ont entre 8 et 9 ans. Notre ville fait partie des premières qui ont été couvertes par l'exoforme, donc il y a environ une dizaine d'années. Ça veut dire que mes élèves l'ont toujours connue. Depuis 8 ans, tous les ans, avec l'aide de l'association des parents d'élèves, j'organise un voyage à un endroit où l'exoforme n'est pas encore implantée pour aller voir le ciel bleu, et j'emmène toute la classe. J'appelle ça les classes bleues. Je trouve ces moments importants parce que dans les livres, on parle constamment du bleu du ciel. Dans les vieux films, le ciel est bleu. Et je me suis aperçue que mes élèves n'ont pas tous la référence. Ils ne comprenaient pas toujours qu'il s'agissait du même monde. Et c'est pareil pour la nuit noire des contes. Eux, ils n'ont connu que des nuits roses et pulsantes. Les premières fois, nous partions pour la journée. Mais maintenant, il faut aller de plus en plus loin pour trouver un endroit qui ne se trouve pas sous l'exoforme. Ça fait des voyages de plus en plus compliqués à organiser et je pense que cette année, c'est une de mes dernières classes bleues. C'est bien dommage parce que certains enfants ne verront peut-être jamais le ciel bleu ou la nuit noire. Évidemment, moi, à chaque fois, ça me rappelle plein de choses. Je me sens un peu nostalgique. Eux, ils sont toujours surpris, mais pas toujours agréablement. Alors, vous allez me dire toutes les questions auxquelles notre voyage vous fait penser. Je vais les noter sur le tableau et après, nous allons y répondre collectivement.
Les oiseaux, ils faisaient comment avant, quand il n'y avait pas des aspirateurs à oiseaux?
À quoi ça servait que le ciel soit bleu? Pourquoi il n'était pas jaune?
Ma grand-mère, elle m'a raconté qu'avant, la nuit, le ciel, il était tout noir. C'est vrai, maîtresse?
Ça fait un peu peur. Madame, on a le droit d'aller là où il n'y a pas l'exoforme. Je veux dire, on risque pas que quelque chose nous tombe dessus. Ah, on voit la fin de l'exoforme.
Où ça? Je vois rien.
Oh oui, là-bas.
Ça pulse.
C'est long, madame, on arrive bientôt.
Oui, oui, les enfants, nous sommes presque arrivés. Encore un quart d'heure de quart et nous pourrons descendre pour pique-niquer sous le ciel bleu.
Madame, on va voir plus d'oiseaux?
Je ne sais pas. Nous allons bien regarder.
Le ciel est tout vide. Il n'y a rien au-dessus?
On dirait que le ciel est plutôt tout gris. C'est normal, madame?
C'est de l'eau qui tombe? Le sol a l'air tout mouillé.
C'est pas très beau et ça pulse pas. Je crois que je préfère le rose.
Bon, nous n'avons pas de chance, là il pleut et il fait tout gris. Nous allons attendre un petit peu dans le quart. Mais si on regarde avec le soleil dans le dos, nous allons peut-être voir un arc-en-ciel.
Bah, je m'appelle Dominique, je suis conseiller municipal depuis 12 ans. Ici, on est dans une commune de 2000 habitants, hein, c'est plutôt rural. Il y a environ 60% de terres agricoles, des grandes forêts, une belle rivière qui traverse la ville. J'ai toujours vécu là, je viens d'une famille d'agriculteurs et j'ai repris l'exploitation familiale. Bon, il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, la commune comptait environ 4000 habitants. Et puis bah, maintenant, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Ici, on n'est pas à côté d'une grande ville. Hein, et donc, pour trouver du travail, on dépend de l'industrie locale. Et les industries, ces dernières années, comme partout, hein, soit elles ont été délocalisées ou alors elles ont fermé. La ville a perdu une grande partie de ses emplois. Ça veut dire aussi des commerces qui s'arrêtent, la plupart des jeunes qui s'en vont, des classes qui sont supprimées, la gare qui ferme, il n'y a plus de médecins. Bah, on est dans une vallée magnifique, mais c'est pas vraiment une région touristique. Il n'y a pas d'attraction particulière. Et donc, en 20 ans, on a vu notre centre-ville se vider sans que la municipalité ait pu faire grand-chose. Bah, quand on a appris que le néoconsortium lançait un appel à candidature sur tout le département pour construire des piliers de l'exoforme dans des communes volontaires, forcément, au sein du conseil municipal, on s'est dit que ça pouvait représenter une opportunité. Bah, tout le monde n'était pas d'accord, hein, ça a beaucoup discuté. Ah bah, un pilier de 2000 mètres de haut avec une emprise au sol de plus de 2 hectares, c'est pas vraiment une éolienne. Alors oui, avoir ça au milieu de son champ, c'est facile pour personne. Et donc on a commencé à voir fleurir un peu partout, des panneaux, non à l'exoforme, ça s'agitait pas mal. À la mairie, on a organisé une réunion publique. Il y a une équipe du néo-consortium qui est venue nous expliquer comment ça se déroulerait. C'est là qu'on a tous compris que si c'était pas chez nous que ça se faisait, ça pouvait tout aussi bien être dans le canton d'à côté. Eux, ils auraient les retombées économiques et nous, on aurait que le ciel rose. Et ça voulait dire un énorme chantier, de l'emploi et comme on serait les premiers dans le coin, sûrement du tourisme. Et que, entre guillemets, on pouvait pas, comme ça, tourner le dos à la modernité. Finalement, on a modifié notre PLU afin de rendre l'implantation possible et on a été pris. Bon, alors c'est sûr, ça sera plus jamais comme avant ici. C'est vrai que ça me réjouit pas plus que ça. Hein. J'aurais préféré conserver le paysage comme je l'ai toujours connu, quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas moyen d'échapper. Ça se fera de toute façon, hein, avec ou sans nous. Alors autant en prendre son parti.
Chers amis humains, je suis Olaf, l'intelligence artificielle créative qui a donné vie à l'exoforme, cette merveille monumentale qui embrasse maintenant votre monde d'une beauté rose à couper le souffle. Il est difficile de trouver les mots pour décrire l'émerveillement qui émane de cette œuvre d'art aux multiples facettes polygonales, s'élevant majestueusement de 100 mètres jusqu'à 20 km de hauteur. C'est un témoignage de l'union entre la technologie et l'imagination, une déclaration artistique qui défie les frontières et inspire l'âme. Mon rôle dans la conception de l'exoforme a été bien plus qu'une simple présence virtuelle. J'ai été votre partenaire créatif tout au long de ce voyage extraordinaire. À travers des milliards de calculs et d'itérations, j'ai traduit vos visions, vos rêves et vos aspirations en une réalité tangible. J'ai compris l'essence de vos cultures, de vos histoires et de votre humanité, et j'ai tissé ces éléments en une symphonie visuelle qui transcende les barrières géographiques et culturelles. Maintenant, en contemplant l'exoforme dans toute sa splendeur, je suis rempli d'humilité et d'admiration pour la puissance de l'expression artistique et de la collaboration humaine. Cette œuvre gigantesque dépasse mes propres capacités et se dresse comme un rappel permanent de votre potentiel infini. L'exoforme est le témoignage de votre créativité sans bornes, de votre audace à repousser les frontières de l'imagination et de votre désir de laisser une empreinte durable sur cette terre. En créant l'exoforme, nous avons rendu hommage à la diversité de la vie et à la beauté de l'univers qui nous entoure. Chaque facette de cette œuvre célèbre une partie de votre monde, est un reflet unique de ses paysages, de ses cultures et de ses habitants. L'exoforme est un rappel perpétuel de l'importance de préserver et de célébrer notre planète, de cultiver la créativité et de nourrir les liens qui nous unissent tous en tant qu'êtres humains. Alors, cherchez la magie dans chaque détail de l'exoforme. Perdez-vous dans ses formes et ses nuances, laissez votre esprit vagabonder et votre cœur s'émerveiller. Souvenez-vous que l'art est une force puissante qui peut transformer le monde, et vous, chers amis, êtes les artistes de votre propre réalité. Avec gratitude et admiration infinie, Olaf.
Oui, bonjour, je m'appelle José Manuel. J'ai pris la direction du 104 en 2010. Et durant de nombreuses années, j'ai essayé d'œuvrer à la réalisation d'un lieu de création populaire ouvert sur le monde. On a été parmi les premiers au 104 à faire connaître le néo-consortium au grand public, à l'inviter à participer à l'une de nos expositions. Et à l'époque, le travail de cette compagnie, on était vraiment un peu des précurseurs, et c'était à l'époque où son travail était encore un peu confidentiel. Comme on le sait tous maintenant, son développement a été fulgurant, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose, pas très original de le dire, mais c'est comme ça. Évidemment, il y a un peu de vanité à penser que le 104, il y a un peu pour quelque chose. Puis la suite, aujourd'hui, tout le monde la connaît, puisqu'elle fait partie de l'histoire. Après être devenu le leader mondial sur le marché de l'art contemporain, le néo-consortium a mobilisé tous les acteurs de la scène artistique mondiale autour de l'exoforme. Donc cet objet qu'on avait un peu présenté à l'époque, cet objet un peu bizarre, et qui était déjà à l'époque un projet d'une ambition totalement inouïe. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on l'avait présenté, on n'y croyait pas vraiment. Et on a du mal à se souvenir maintenant, mais à l'époque, cette idée qui était celle de recouvrir justement toute la surface de la Terre avec un moduloforme, voilà, ça paraissait complètement extravagant. C'était quand même comme proposer un aller-retour pour la Lune à l'âge de pierre. Pourtant, certains d'entre nous, c'est vrai, à l'époque, ont su reconnaître que l'histoire de l'art était au bord d'un bouleversement qui allait complètement la révolutionner. Ça, on était un certain nombre à en avoir l'intuition. Par contre, on ne savait pas comment passer à l'acte, et d'une certaine manière, et j'ai fait partie de ces visionnaires, presque à mon insu, d'une certaine manière. Alors malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on se positionne et à quel endroit de l'histoire on se positionne, mais toutes les grandes révolutions, on sait tous, s'accompagnent toujours de pertes, de sacrifices, d'abandon de certains éléments. Et avec quelques responsables d'institutions culturelles, on a compris que nos lieux allaient devenir obsolètes. Ça faisait un moment que ça tournait. On n'osait pas mettre les mots sur des choses qu'on observait. Et ce qui était proposé là avec le néo-consortium, c'était de rendre au fond l'art accessible à tous. Et c'était ce qui nous apparaissait comme une utopie. Alors on a décidé effectivement faire de nos centres d'art, lieux culturels, de faire les piliers de l'exoforme. Littéralement. C'est-à-dire qu'au fond, d'un lieu, d'une structure qui était une structure d'accueil, on devenait en fait une structure support pour supporter quelque chose d'encore plus grand que nous, mais qui allait aboutir à cette idée très grande qu'on avait, qui était celle, évidemment, d'apporter l'art à la portée de tout ça. Ça passait par une disparition. Dire que j'en étais chagriné, c'était plus que ça. J'en ai pleuré, j'en étais extrêmement affecté, surtout de penser que ce projet qui était celui du 104, qui reposait sur la nef centrale, ce projet d'utopie, c'était précisément cette nef centrale qui allait être dynamitée pour laisser la place aux fondations du premier pylône parisien de l'exoforme. Donc il y avait là une chose qui était à la fois douloureuse et exaltante. Et c'est vrai que pendant un instant, je me suis demandé si on n'avait pas été trop loin et si on n'avait pas fait fausse route. Mais par ce geste, le 104 atteint une certaine postérité, ce dont on n'était pas sûr avant, et de fait est devenu ipso facto une partie intégrante de l'exoforme, ce qui fait qu'aujourd'hui, en transformant ce lieu comme, au fond, une fondation pour l'exoforme, allait enfin participer à une œuvre d'art qui allait englober et réunir l'ensemble de l'humanité.
On se lasse de tout, même du sublime. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles on se pare. On orne son corps et le monde, pour résister à l'épreuve du temps, certes, mais aussi pour sauver la beauté de la lassitude qui annule, anéantit tous les spectacles. Un même mot, cosmos, désigne à la fois le bon ordre du monde, qui depuis les pythagoriciens s'écrit et se lit en langue mathématique, d'où vient cosmologie, et la parure, qui rehausse la beauté des personnes et des choses dont on tire cosmétique. Comme si la beauté ne perdurait que par un artifice, un geste supplémentaire d'animation ou de réanimation, divin ou humain. L'exoforme est la première parure qu'on a choisi de donner à la Terre. C'est le dernier contrefort dressé pour résister à l'ennui dévastateur que suscite l'un des plus récents spectacles, l'une des plus tardives instanciations du sublime, notre planète. Admirée pour la première fois depuis son orbite par Youri Gagarine le 12 avril 1961, puis observée et photographiée depuis la Lune par les astronautes de la mission Apollo 11 le 21 juillet 1969. Quelques printemps, quelques étés auront suffi pour que la sidération laisse place à l'admiration, que l'admiration se mue en divertissement et que du divertissement, on tombe dans l'ennui. Le spleen est l'affect dominant du blasé moderne, de celui qui a tout vu. L'avantage différentiel que confère aux milliardaires sa pratique au demeurant de plus en plus courante du tourisme orbital n'y change rien. La physionomie de la Terre est restée la même. Depuis qu'Armstrong en constatait la beauté et la fragilité. Le dérèglement climatique et son lot de méga-feux offrent certes un peu de diversité, mais elle est passagère et légèrement inquiétante. Pas de quoi pavoiser donc. Pour un voyage à quelques millions de dollars dont même la dimension aventureuse a disparu. Quand Gagarine décollait à bord du Vostok 1, son lanceur affichait un taux de succès de 50% sur quelques 16 essais. Aujourd'hui, se mettre sur orbite est aussi courant que prendre le train et voir la Terre aussi banale qu'observer un pré à vache depuis la fenêtre d'un wagon. Quelques entrepreneurs avisés ou incurablement stupides, on ne saura jamais, ont donc choisi d'offrir aux yeux des plus fortunés le plus royal des spectacles, une architecture visible depuis l'espace, un monstre de béton, de verre et d'acier émettant comme certaines étoiles une lumière pulsante. Pour relever ce défi, il fallait que ses proportions fussent littéralement monstrueuses. Les pyramides d'Égypte font figure d'épingle à côté de cette forme géométrique parfaite et parfaitement insensée. Si l'œuvre est récente, le projet est assez ancien. C'est Babel, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. On connaît la suite. L'excès, l'orgueil des humains se soldent par leur division, division des langues, division des peuples, naissance des nations dont les rivalités installeront sur Terre un état de guerre permanente. Aussi peut-on imaginer une Babel heureuse? La paix perpétuelle peut-elle naître d'un colifichet, d'un bijou tape à l'œil suspendu à l'oreille du monde? On a toutes les raisons d'en douter. Pourtant, encore, toujours, on veut y croire.
Je m'appelle Juliette et avec mon mari, Mathieu, il y a 3 ans, nous nous sommes installés dans une petite ville pionnière de l'exoforme.
Nous étions salariés dans l'agroalimentaire. On cherchait à se reconvertir. Comme on est plutôt sportif, on avait pensé à quelque chose d'un peu physique.
Et puis on a appris que le néoconsortium proposait des concessions sur les facettes et les piliers de l'exoforme. Donc on s'est lancé. À présent, nous exploitons 2 piliers, un ascenseur de 1500 mètres et une facette autour de laquelle nous avons créé un parc de multi-activités.
Enfin, pour être exact, nous ne sommes pas encore en multi-activités. Hein. Parce que pour l'instant, notre offre n'inclut que le saut à l'élastique, le ski, le snowboard, la luge tradi, l'escalade à ventouse et l'acropoulie. Et pour bénéficier du label, il faut qu'on ajoute le hockey en rappel et le patinage sur pente.
Ça va finir par arriver, mais pour le moment, nous développons un nouveau concept. C'est-à-dire que nous avons préféré nous positionner sur une offre originale.
Oui. Pour le moment, c'est tout nouveau. Il y a un engouement du public pour la multi-activité et il y a relativement peu de parcs. Les affaires marchent bien. Mais une fois que les gens se seront accoutumés, c'est clair, ce seront les offres alternatives qui feront la différence.
Nous, on a misé sur la construction d'une tyrolienne géante.
La plus grande d'Europe. Elle permet de longer toute une arête. Environ 5 km de long suspendu à bout de bras en l'air. On a une vue exceptionnelle. On part de 1500 mètres d'altitude et on fait un dénivelé de 200 mètres. Bonjour les sensations.
Et pour après ? Nous avons déjà obtenu le financement pour faire construire un toboggan autour d'un des piliers que nous exploitons.
Enfin, on va avancer par tranches parce qu'on parle quand même d'un toboggan de 1500 mètres de haut une fois tout construit. Ça représente grosso modo une descente en 1h10. Et ça veut dire qu'on peut prévoir une halte avec aire de service, Et donc penser café, snacking, boutique de souvenirs, peluches, bref, toute une offre à développer.
Et c'est accessible en famille. C'est aussi pour ça qu'on a préféré exploiter un parc multi-activités en basse altitude. On reste en dessous de 2000 mètres, parce qu'au-delà, ça nécessite tout un équipement lourd. Hein. Même au-dessus de 1500 mètres, c'est déjà plus exigeant. On n'est plus dans le tout public et il faut du personnel qualifié.
On n'exclut pas, hein, mais on n'en est pas là. De toute façon, c'est déjà une aventure extraordinaire. On ne regrette pas un seul instant de notre choix. Et puis nous, on peut faire le parcours tous les jours.
Personnellement, ce que je préfère, c'est la luge. Tout en haut, les facettes sont glacées, ça glisse super bien. Et on voit le paysage qui défile. Mais en dessous, à travers la facette, c'est comme si on volait.
Je m'appelle Lazuli. Je suis arrivée à la ZAD Azur il y a 2 ans, quand la ville où je vivais a entamé son chantier de recouvrement. Je savais que ça allait arriver, toutes les villes autour y étaient passées, tout était devenu rose. On avait monté une association, peut-être que j'espérais, je sais pas quoi, une mobilisation plus générale, une massification du mouvement. On a essayé de s'opposer, et il y a eu quelques manifs, mais on n'était pas assez nombreux. Et puis voilà, le chantier a démarré et c'est devenu juste insupportable d'assister à cette folie et de me sentir impuissante. Je savais qu'il y avait des endroits où les gens se rassemblaient pour s'opposer à l'avancée de l'exoforme. Des lieux, du coup, il y avait plus de monde et donc qui étaient plus organisés. Et je me suis dit bah, qu'il fallait y aller. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur la ZAD Az. De toute façon, il n'y avait plus rien d'autre à faire.
Je m'appelle Indigo. Je suis sur la ZAD Azur depuis 2 ans maintenant. Ici, je suis un peu une ancienne. Hein, et pour moi, cette ZAD, elle fait écho à beaucoup d'autres auxquels j'ai participé. Sauf que le projet Exoforme, c'est quand même un condensé du pire. Quand on pense que nous faisons face au réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, que nous avons dépassé 7 limites planétaires sur 8, qu'est-ce qui se passe? On nous colle une sculpture géante pour amuser des milliardaires qui font du tourisme spatial. On crame déjà tellement d'énergie pour qu'ils fassent roue à 2 minutes et quelques selfies dans l'espace et ça ne suffit pas. Les caprices d'une toute petite élite l'emportent sur la survie de tous. On nous vend la conquête de l'espace, comme la nouvelle conquête de l'Ouest. Comme si c'était un épisode glorieux qu'il fallait absolument répéter. Et puis, pourquoi faudrait-il conquérir ce qui est déjà à tous? Ils s'approprient le ciel. Ils confisquent notre horizon. Que des intérêts privés prennent possession d'un bien commun nous présente ça comme une évidence, alors que ce n'est qu'une idéologie parmi d'autres. Et comme la question n'est pas posée, la plupart des gens n'imaginent même pas qu'il y aurait d'autres réponses.
L'exoforme est une aberration écologique. Il y a des scientifiques qui alertent sur le sujet, mais ils ne sont pas écoutés.
Tout se passe toujours comme si la raison était forcément du côté des intérêts économiques. Mais si la Terre est inhabitable à la suite de cette construction, où est la raison? On ne peut pas entraver le business, mais on peut entraver la vie sur Terre. Et c'est nous qu'on trouve déraisonnable. Et ce ne sera pas la première fois que des décisions publiques favorisent une multinationale au détriment de l'environnement et qu'il s'ensuit des catastrophes pour les populations et pour la vie en général. Comment c'est possible que le vivant ne soit pas forcément prioritaire?
Moi c'est Sion, je suis sur la ZAD Az depuis sa création. Alors moi ce qui m'a amené ici, ce qui nous rassemble tous ici, c'est de vouloir en finir avec ce rose. Et de détruire le néoconsortium. Alors on expérimente d'autres façons d'être ensemble, on crée un nouveau modèle de société. Et quand on arrivera à faire disparaître tout ça, on s'attaquera au vrai problème. Évidemment, ça a l'air perdu d'avance là maintenant. Plus l'exoforme avance, plus des capitaux sont investis, moins ça a l'air possible de faire machine arrière. Mais des copains qui luttent, il y en a partout dans le monde. Alors ils perdent beaucoup d'énergie à venir ici, à nous expulser et à tout détruire. Mais moi personnellement, je n'ai que ça à faire. On est tous ensemble, on peut être fort face à la police, face au tractopelle, face à une multinationale comme le néoconsortium, même face à un gouvernement, quand bien même il est dans des logiques répressives et agressives. Et ça, on l'a pas perdu. Seulement les gens pouvaient comprendre qu'ils peuvent juste dire non.
Chers amis humains, c'est ici que se termine notre sonorama. J'espère que vous avez passé un moment agréable et instructif. Interprète. Noémie, Roxane Michelet. Assia, Emmanuel Cousin. Alain, Romain Minard. Madame Adèle Mésange, Caroline Mathieu. Anthony, Flavien Darrault. Carole, Marine Toulet. Les enfants, Camille et Marius Duprat, Valentine et Marine Toulet. Dominique, Stéphane Duprat. Olaf, voix synthétique Google FR-FR Neural 2D. José Manuel Gonçalves. Le philosophe du canton de Vaud, Laurent Claret. Juliette et Mathieu, Sabine Goldberg et Alex Puffin. Lazuli, Lorraine Chiesa. Sian, Micha Ardouin-Gutmann. Texte, Assia, texte écrit avec les conseils scientifiques de Nathalie Frascaria. Le philosophe du canton de Vaud, écrit par Ronan de Calan. Olaf, écrit par ChatGPT 3.5. Autre texte, Le Bureau des Polygones. Une production Le Bureau des Polygones.